Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le bénéfice du doute, religion et politique avec Jean-Marc Ferry. À quelques semaines des élections présidentielles, les religions ne donnent pas de consignes de vote, et c'est bien normal en contexte de laïcité. Les convictions religieuses et les croyances sont cantonnées au domaine privé, mais a-t-on pour autant raison de considérer qu'elles ne doivent pas participer au débat public? A-t-on raison de considérer que le débat public doit être vierge de toute conviction morale et religieuse? Et si la raison publique et la foi avaient également à gagner à leur réengagement mutuel sur le terrain du débat public? Dans un livre paru il y a quelques mois aux éditions Agora Pocket, le philosophe Jean-Marc Ferry défend l'idée de cette réconciliation et en ouvre les chemins possibles. Jean-Marc Ferry, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir dans le bénéfice du doute. Vous êtes l'un des philosophes du politique aujourd'hui les plus importants. Vous avez occupé un poste de philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles pendant des années. Vous êtes aujourd'hui en charge de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes. Vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, dont beaucoup sont consacrés à la question de l'Europe. Vous êtes un philosophe catholique, vous êtes aussi le traducteur d'Habermas en France. Et vous êtes aussi beaucoup intervenu sur les questions de religion et politique, puisque l'ouvrage dont on va parler ensemble, « La raison et la foi », fait suite à deux autres livres sur des sujets très proches, « La religion réflexive » en 2010 et « Les Lumières de la religion », un livre d'entretien que vous avez fait paraître il y a quelques années. Alors vous plaidez, vous défendez dans ce livre « La raison et la foi », Jean-Marc Ferry, l'idée d'une réconciliation possible entre la raison et la foi. Vous défendez l'idée d'une réévaluation utile de la contribution des convictions religieuses dans l'espace public de les délibérations. Et vous démarrez, et je voudrais qu'on démarre à notre tour notre discussion sur ce point, vous démarrez sur, et je reprends cette expression évidemment que vous allez nous expliquer, sur la conscience d'un manque, la conscience de ce qui manque dans les sociétés occidentales. Et je voudrais citer quelques lignes de votre livre. « Les États savent à peu près comment faire face aux injustices politiques, mais ils se sentent démunis devant les manquements à la fraternité et à la solidarité. C'est que l'on ne peut prescrire la fraternité comme on fait respecter la liberté ou l'égale dignité des individus. On ne commande pas la charité comme on impose la justice. » Est-ce que ça voudrait dire qu'à côté des lumières de la raison en charge du juste et de l'injuste, il faudrait faire une place aux lumières de la religion garante de notre sens du bien et du mal? Qu'est-ce que c'est que cette conscience de ce qui manque, Jean-Marc Ferry?
C'est la conscience du fait que ce que nous appelons la raison, et dont le code nous a été donné philosophiquement à la grande époque des Lumières, c'est-à-dire essentiellement une raison qui se partage en deux voire trois grandes dimensions, soit la dimension de la science, on peut y ajouter la technique, celle de la morale et du droit, les droits, les principes universaliste et du droit, et la morale des principes, la morale formelle. Et puis, en troisième sphère, plus molle, dirais-je, l'esthétique. C'est ces trois sphères qui définissent ce que l'on appelle l'architectonique de la raison. Alors, est-ce qu'avec ces trois sphères-là, on rend compte de l'identité des personnes et surtout des aspirations qu'elles ont aujourd'hui au sens? Est-ce que la raison séculière, telle qu'elle est donnée dans cette architecture, suffit à remplir nos exigences ou nos attentes de sens? Je vous dis très, très rapidement, entre parenthèses, vous m'avez étiqueté philosophe catholique, mais je ne suis pas philosophe catholique, je ne me considère pas comme tel, je m'intéresse aux religions, J'ai un arrière-plan plus complexe que catholique.
Pardonnez-moi, je vous ai connu une étiquette qui était très
ridicule. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que j'ai été parfois étiqueté de cette façon, mais je voulais préciser que je n'interviens pas du tout en tant que philosophe catholique.
Bien sûr.
Je m'intéresse à la raison et je m'intéresse aussi au rapport qu'elle entretient avec la religion. Ce sont des rapports tendus et assez complexes.
Ce sont des rapports tendus, en particulier en contexte français, où le consensus, c'est celui, comme vous l'écrivez, d'une excommunication politique du religieux. Les convictions religieuses sont maintenues en marge du débat public. Elles ne sont pas acceptables comme des bases d'argumentation pour voter des lois, pour adopter des normes publiques. Alors, au contraire, vous dénoncez cette situation comme peu productive en réalité, à la fois pour la raison et pour la foi. Pourquoi, Jean-Marc Ferry, vous considérez que la doxa actuelle sur cette séparation stricte du règne de la raison publique et du règne de la foi, finalement, est peu productive? Qu'est-ce que de quoi ça nous prive?
Alors, tout d'abord, cette structure que vous évoquez, et qui remonte, on peut la faire remonter très loin, y compris aux religions, si bien d'ailleurs le judaïsme que le christianisme, la séparation du temporel et du spirituel, de l'ici-bas et de l'au-delà. À partir de cette séparation, c'est vrai, on peut voir des prolongements dans l'âge moderne, entre donc le public et le privé, c'est-à-dire la raison publique et la conscience privée, ou encore la politique, la religion, le droit, la morale, le juste et le bon, ou les normes et les valeurs, la responsabilité et la conviction, ou la science et l'opinion, ou la raison et la foi. Toutes ces dichotomies-là structurent en quelque sorte notre vision de l'ordre légitime. Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que c'est une base extrêmement importante. C'est l'imaginaire des démocraties libérales en général. C'est pas propre à la laïcité, à la française. C'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et c'est un socle absolument indispensable. Il a une valeur en soi, dirais-je, pour l'intelligibilité, la conscience d'ordre différent du réel. Et puis, il a aussi une explication historique qui nous vient, en ce qui concerne l'Europe, des guerres de religion qui ont failli disloquer, justement, les sociétés européennes au XVIe siècle. Et comprenons cela historiquement. Ces guerres de religion, elles ont trouvé plusieurs solutions possibles, des solutions provisoires, dont à mon avis la meilleure a consisté à considérer que désormais il fallait que la conviction religieuse soit privatisée, qu'elle soit cantonnée dans ce qu'on appelait, c'est une expression qui date du XVIe siècle, dans le fort intérieur de l'individu, de la conscience privée individuelle. Pourquoi? Parce que ce qui est explosif, ce qui est dangereux, c'est pas qu'il y ait des religions différentes, c'est que ces différences s'expriment dans l'espace public avec toute la potentialité de conflits liés au fanatisme de l'époque, n'est-ce pas? Et donc, dans le contexte de l'époque, qui était aussi lié à des enjeux politiques de princes rivaux, n'est-ce pas? Bien entendu, ce n'était jamais des convictions pures qui s'opposaient ici. Il était tout à fait important et même indispensable de privatiser la religion, de ne plus en faire une affaire publique. Et c'est là qu'émerge le libéralisme politique à cette époque, et qui s'est marqué effectivement dans certaines, dirais-je, versions plus dures, comme en France par exemple, où la catholaïcité française, si j'ose dire, qui diffère profondément des schémas protestants, eh bien il y a eu une véritable excommunication politique du religieux. Alors, soyons nuancés dans l'appréciation de cette situation. D'une part, c'est salutaire. Ce partage public-privé entre conviction, responsabilité, raison, religion, etc. C'est salutaire, historiquement justifié, Mais, à mon avis, cela a des limites et comporte quelques risques pathogènes, dirais-je. Il y a aujourd'hui, on peut prendre conscience de, notamment d'un double risque complémentaire, bien qu'il soit opposé. D'une part, la privatisation de la conviction religieuse, du fait qu'elle n'est plus exercée dans la confrontation publique. Elle perd de la force. Et là, le risque est la relativisation et le scepticisme. Y compris chez les clercs, il n'est pas du tout certain qu'ils croient toujours en Dieu. Pour parler très simplement, ça fait penser à ce que disait Caton à propos des augures de son époque. Un augure ne peut pas rencontrer un autre augure sans rire. Et on peut se demander justement dans quelle mesure la privatisation de la conviction religieuse ne détruit pas la solidité, en quelque sorte, de cette conviction. C'est le risque du scepticisme et du relativisme, parce que évidemment, c'est pas qu'en soi il faille croire plutôt que ne pas croire, c'est pas ça. C'est que la perte de ces convictions, de sa foi, peut entraîner une espèce de scepticisme généralisé qui n'est pas fameux, mais qui va souvent avec le relativisme. Que tout se vaut, qu'il n'y a pas de vérité, etc. Et puis de l'autre côté, ce qui me semble complémentaire, c'est que certains sentent peser la menace sur la religion du fait de cette privatisation, et du coup se rigidifient et tentent à devenir, à se précipiter dans des orientations fondamentalistes, intégristes, sectaires, identitaires, avec tous les fanatismes et les intolérances que cela implique.
Du fait que la conviction religieuse ne trouve pas à s'exercer dans la confrontation avec d'autres, elle se sclérose et elle se transforme en fanatisme, elle brûle dans son coin.
Je vais même invoquer à l'appui de cet argument un philosophe des Lumières, paradoxalement, n'est-ce pas? Il s'agit de Kant, je cite à peu près de mémoire, qui valorisait ce qu'il appelait la publicité, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, ça ne voulait pas du tout dire la pub ni quoi que ce soit de ce genre, ça voulait dire l'usage public de la raison, l'usage de la discussion dans un espace public de débat. Et disait-il de façon très intéressante, je le dis à peu près, je n'ai pas la citation exacte en mémoire, penserions-nous bien et penserions-nous beaucoup si nous ne pouvions communiquer nos pensées aux autres, etc. Donc l'idée de Kant, c'est que à partir du moment où il n'y a plus de parole publique de ses convictions, de ses pensées, c'est la pensée elle-même qui est détruite. Lorsqu'elle n'a plus accès à l'expression publique. Donc il y a un vrai danger avec la privatisation, c'est-à-dire la perte de publicité, il y a un vrai danger pour la pensée elle-même.
Du fait aussi que ces pensées religieuses ne trouvent pas à se mesurer aux questions profanes, aux questions de société du moment.
Exactement. Il est très important que les convictions se confrontent les unes aux autres dans un espace public évidemment bien structuré. Et pour qu'elle se... C'est ainsi qu'elle se forge en quelque sorte au feu de la confrontation. Et sinon, elle se délite. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va entre soi créer des consensus de bocal, si j'ose dire, et qui font qu'on ne cherche même plus à savoir si ce sur quoi on est d'accord est vrai ou faux aussi. Et on ne cherche plus à examiner les objections auxquelles cela se heurte. Donc... on a absolument besoin des confrontations publiques pour renforcer la pensée et effectivement, le cas échéant, accepter les réfutations, rectifier ses positions, opérer des révisions déchirantes. C'est ça la vie de l'esprit, c'est savoir mourir à une position. Pour accéder à une autre, schéma de la mort et de la résurrection qui revient.
Et il y a un autre argument que vous donnez au service évidemment de cette idée d'une réconciliation nécessaire entre raison et foi, ou plutôt d'une réintroduction des convictions religieuses dans le débat public, c'est finalement cette série de symptômes qu'on a vu émerger ces dernières années dans le débat public français, toutes ces questions sociétales. se heurte à des limites du fait que notre débat public est formulé uniquement en termes de juste et d'injuste. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? Or, sur des questions comme la procréation médicalement assistée, sur la gestation pour autrui, sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie, donc toutes ces questions de début de vie, de fin de vie, de mort, de recherche sur l'embryon, toutes ces questions dites sociétales ou éthiques, finalement, vous soutenez l'idée que la raison juridique est trop limitée.
Exactement, parce que la raison juridique, elle est éminemment compétente pour réaliser un ordre politique sur le principe libéral de ce que j'appellerais volontiers la liberté négative par défaut, c'est-à-dire lorsque l'on est face à des problèmes difficiles, des contentieux civils ou sociaux, comme ceux que vous évoquez, la tendance de la médiation juridique, en quelque sorte, qui est au cœur de ce qu'on appelle la raison publique, eh bien, c'est de dire chacun fait ce qui lui plaît, du moment que l'exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres à côté de lui. Alors, cette formule-là, qui est très économique, d'une certaine façon, puisque ça économise considérablement les charges de discussion, de tractation, etc., entre des gens qui ne sont pas d'accord, chacun est libre du moment que l'exercice de la liberté ne porte pas atteinte à celle des autres, c'est très bon lorsqu'il s'agit d'équité, de justice comme équité. Mais à partir du moment où l'on a affaire aux problèmes que vous évoquez, qui sont des questions très lourdes, qui touchent au ressort biologique de la vie, au rapport à la mort, au sens de l'existence, sont des questions métaphysiques, n'est-ce pas, beaucoup plus que proprement politiques, mais qui réclament maintenant un règlement juridique. Et là, l'État, comme nous-mêmes, vous et moi, souvent nous sentons démunis pour trancher purement et simplement ces questions lourdes. Et nous sommes donc de ce fait, pourquoi ? Parce que dans un espace séculier comme les nôtres, la raison juridique qui intervient a ses limites cognitives. Elle ne peut pas régler des problèmes métaphysiques lourds. Elle peut régler des problèmes d'équité, qui sont des problèmes politiques, mais pas le problème du sens de l'existence, ni du bien et du mal. Et de ce fait, nous sommes face à un dilemme qui est très actuel, ou bien, comme c'est le cas souvent en Europe du Nord, on décide d'être hyper libéral. Chacun fait ce qui lui plaît. Donc, cela peut même conduire à ce que d'aucuns jugeraient moralement inacceptable. Donc, c'est l'individualisme qui est en quelque sorte, qui exerce son impérium, dirais-je. Ou bien alors, comme c'est le cas en France, qui n'est pas un pays franchement libéral, n'est-ce pas, par rapport à l'Europe du Nord, eh bien, la tendance est plutôt que l'État s'érige en législateur moral, c'est-à-dire qu'il érige au fond des interdits moraux, ou supposés tels, en interdiction légale. Et donc,
sans toujours préciser qu'il intervient sur le terrain moral.
Oui, en outre. Et ça, c'est contraire à l'esprit libéral du droit. Et je dirais même à l'esprit du droit moderne, purement et simplement, n'est-ce pas ? Qui n'a pas à s'occuper des questions de bien ou du rapport à soi, etc. Donc, dans les deux cas, ou bien ce qu'on appellerait laxiste, la solution hyper-libérale ou autoritaire, c'est-à-dire la solution étatiste du législateur moral, surtout que les États aujourd'hui en Europe ont une certaine blessure narcissique qui vient du fait qu'ils ont conscience de la perte de pouvoir politique et donc ça y compense en quelque sorte. Nous pouvons le voir dans l'actualité aujourd'hui depuis quelques années, ils compensent par des interventions dans la sphère morale. Conséquence, on court-circuite les processus de délibération dans un espace public ouvert. Et c'est ça qu'il faut ouvrir. Et c'est pourquoi je soutiens cette thèse et qu'il faut ouvrir l'espace public à des arguments qui ne sont pas strictement juridiques, qui ne sont pas strictement ceux de ce que l'on appelle la raison publique.
– Mais alors, ouvrir l'espace public à des arguments d'ordre moral ou inspirés par des convictions religieuses, ça suppose évidemment d'encadrer tout ça d'un certain nombre de conditions que vous développez dans votre livre. Et ça suppose en particulier de la part des religions, des convictions religieuses, de se convertir ou d'accepter un usage public de leur raison, c'est-à-dire de se traduire dans un langage profane, en acceptant les principes d'une société ouverte.
Oui.
Est-ce que, d'abord, c'est une attitude qui peut être, qui est compatible avec l'esprit religieux lui-même, assumer l'idée que, finalement, aucune de nos certitudes n'est à l'abri de l'erreur, hein, qu'on est peut-être faillible, et que d'autres ont d'autres accès à la vérité qui peuvent être aussi légitimes que le nôtre.
Oui. Alors, deux choses pour répondre complètement, ou tenter de le faire à votre interrogation. Ce chemin, il doit être réciproque, c'est-à-dire c'est pas seulement du côté des religions qu'il y a un chemin à faire, c'est aussi du côté de ce que l'on peut appeler la raison publique. C'est ce que j'appelle une perlaboration entre les deux, n'est-ce pas, entre les deux pôles, la conviction privée religieuse et la raison publique politique. Alors du côté des religions, du côté de ces convictions, en effet, elles doivent en quelque sorte intérioriser les principes de ce que le philosophe Popper appelait société ouverte. Et c'est essentiellement ces principes dont vous parlez, c'est-à-dire le faillibilisme, le criticisme et le perspectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le faillibilisme, ça veut dire je peux me tromper. Et donc, être dans l'attitude où on n'a pas a priori raison. Et le criticisme, c'est le prolongement de cette attitude faillibiliste qui consiste à pratiquement exposer les raisons de ces positions. Et pas simplement dire c'est comme ça parce que Dieu l'a dit. Et accepter d'examiner les raisons ou les contre-arguments et contre-expériences qui vous sont opposées. Donc entrer dans un vrai débat, ce qui est une marque de modestie d'une certaine façon, modestie démocratique. Et puis le perspectivisme, c'est considérer, ça va avec évidemment, que notamment toute affirmation, tout contenu d'affirmation n'est jamais détachable du point de vue d'où c'est énoncé. Par exemple, dire dans l'espace public « Dieu dit que », dans un espace séculier, j'entends, c'est oublier que la parole de Dieu dans cet espace n'est plus que celle d'hommes et de femmes qui prétendent dénoncer. N'est-ce pas? Donc, c'est très important d'intérioriser ces trois principes, faillibilisme, criticisme, perspectivisme, en ce qui concerne les religions. C'est leur chemin à elles pour entrer dans la raison publique, pour que l'on puisse parler sans rougir d'un usage public de la raison religieuse et pas simplement de la conviction religieuse. Parce qu'à partir du moment où la conviction religieuse intériorise ces trois principes, elle devient raison. C'est ça qui est important de comprendre.
Et à ces conditions, Jean-Marc Ferry, vous ouvrez la voie à un dialogue interreligieux ou plutôt à une discussion interreligieuse et interconvictionnel d'ailleurs, qui peut se mener également avec des non-croyants, qui est beaucoup plus exigeante et beaucoup plus risquée que ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux fondé sur le pluralisme. Ce sera peut-être nos mots de conclusion. Le pluralisme religieux qui est aujourd'hui à la base du dialogue interreligieux, il reste à la surface puisqu'il finalement il met de côté les sujets qui fâchent dans un impératif de vivre ensemble, de convivialité, laisse de côté la question de la vérité.
Oui, c'est le piège, voyez-vous, c'est le piège du relativisme au fond. Parce que c'est pas parce que nous sommes dans un espace séculier, pluraliste, avec le droit pour chacun d'avoir les convictions qu'il veut, du moment qu'il respecte des principes fondamentaux de reconnaissance et de respect mutuel. Vous avez tout à fait raison de pointer le fait que le piège du dialogue transconvictionnel, disons, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le côté œcuménique, là c'est entre des confessions de la même religion, et puis interreligieux c'est encore plus, puis transconvictionnel, c'est avec les athées eux-mêmes. Et là, il est important de ne pas viser avant tout la convivialité, comme vous le dites, en évitant les questions qui fâchent, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre sous le boisseau, purement et simplement, ces exigences de vérité. Parce que si je crois quelque chose, je crois que c'est vrai. C'est inséparable. Et donc, on ne doit pas faire le deuil de ces exigences de vérité en même temps que l'on entre en dialogue, en confrontation civile, légale, publique, je préfère cela au mot dialogue, entre les différentes convictions. C'est une lâcheté que de renoncer à sa prétention à la vérité, et c'est même un déni du respect de l'autre que d'y renoncer au nom de la convivialité.
Et en même temps, cette attitude, évidemment, elle met en risque celui qui s'y engage véritablement et en toute sincérité. Jean-Marc Ferry, notre entretien touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup et je rappelle pour nos auditeurs le titre du livre sur lequel portait notre discussion, La raison et la foi, donc Jean-Marc Ferry, et c'est aux éditions Agora Pocket. Merci beaucoup Jean-Marc Ferry et bonne semaine à tous.
C'était le bénéfice du...